Les balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série Imaginaire et culture pop.
Bien, nous démarrons aujourd'hui donc cette journée d'études consacrée au phénomène du sexy pop avec la présentation de Sébastien Hubier, qu'on ne présente plus, mais littéralement, parce que tu as beaucoup, beaucoup écrit sur ces questions d'érotisme et littérature. Tu viens de faire d'ailleurs une véritable somme qui s'appelle « Fiction excitante » parue chez Murmure l'année dernière, 2022. C'est un peu dans le prolongement donc, de cette longue recherche que tu vas nous parler aujourd'hui de l'âge d'or de la pornographie cinématographique.
Merci Antonio. Je commence de suite par remarquer qu'en matière de sexe, il serait assez tentant de dire que les années 70 commencent en 68 dans les salles indépendantes de San Francisco avec l'exploitation inédite de films hard qui ne sont plus du tout correspondant au modèle des films pornographiques qu'on connaissait depuis la belle époque. Malgré l'opposition furieuse de l'administration Nixon, dès 1969, le phénomène gagne New York, où est projeté le premier film X et où des films d'un nouveau genre sont diffusés dans les sex shops et les live shows de la 42e rue. Des courts films pornographiques non clandestins y sont désormais commercialisés en 8 mm et en Super 8. Ces documentaires prétextes ne tardent pas à laisser la place à des films de fiction dont ils ont préparé la venue, en quelque sorte. Les films de Bill Osco, les films de Gérard Damiano ou d'Arty et Jim Mitchell provoquent ainsi une véritable révolution en matière de figuration cinématographique de la sexualité et inventent un nouveau pornstar système. Je pense par exemple à la façon dont Linda Lovelace est devenue une icône de la culture pop dans ce début des années 70. Au seuil des années 70, justement, la France ne produisait tout au plus qu'une vingtaine de films érotiques et de pornographie softcore. Quelques années plus tard, les longs-métrages narratifs tournés en 16 mm ou en 35 mm se comptent par centaines, une production très importante qui se maintiendra jusqu'au début des années 80, où nombre de réalisateurs, Francis Leroy par exemple, dont le film le plus connu est « Je suis à prendre » en 1977 avec Brigitte Lahaie, Francis Leroy, donc Gérard Kikoïne, Claude Mulot, l'auteur de « La femme objet » en 1980 avec Marilyn Jess, commence à déserter le genre. On pourrait dire que se dessine ainsi une sorte d'âge d'or courant de 1969 à 1984. À y regarder de près, pourtant, la situation me paraît plus embrouillée. D'un côté, sous l'influence libérale, au double sens du terme de Michel Guy, secrétaire d'État à la culture de 1974 à 1976, on est en plein septennat de Valéry Giscard d'Estaing, dont je sais bien qu'on a du mal à se représenter qu'il soit lié à la pornographie populaire, mais enfin, c'est malgré tout le cas. Sous l'influence donc de Michel Guy, la censure s'est beaucoup adoucie et des films soft, comme Emmanuel ou comme Histoire d'eau en 1974 et 1975, attirent un public nombreux, entraînant dans les statistiques une augmentation spectaculaire de la fréquentation des salles de cinéma spécialisées ou non dans la matière érotique. De fait, dès 1975, déferlent sur les écrans français les films hard américains et Paris occupe une place centrale sur le marché de la distribution de films pornographiques, comptant quantité de cinéma X dans des quartiers bien identifiables, la gare du Nord, la gare de l'Est, Clichy, Pigalle, Les Halles, Barbès, Belleville ou la Goutte d'Or. Et puis pour les salles gays, la rue du Dragon, la rue Vivienne ou la rue Fontaine. Dans ces quartiers populaires d'avant la gentrification, les cinémas X constituaient à la fois un repère et un lieu notable d'interaction sociale, car ils n'étaient pas seulement des lieux de visionnage de fiction pornographique, mais aussi des lieux de rencontres sexuelles et jouaient de ce point de vue un rôle important dans la culture underground parisienne. Ce que mettent d'ailleurs en évidence deux films intéressants, ce me semble, et qui ne sont pas des films pornographiques, « La chatte à deux têtes » en 2002 et « Simone Barbet sous la vertu » en 1980. Il me semble qu'il serait intéressant de comparer ces deux films point par point avec l'excellent « Boogie Nights » de Paul Anderson et avec l'extraordinaire série HBO « The Deuce » mettant en scène Times Square lors de la révolution pornographique des années 70-80. Cependant, par un effet bien connu de backlash, un nouvel ordre moral s'impose bientôt. Du Nouvel Observateur à Valeur Actuelle, la presse s'insurge contre la pornification de la société et sous la pression des bigots est promulguée la loi du 30 décembre 1975 qui établit un nouveau code de censure, c'est l'invention du code X. Interdiction aux moins de 18 ans d'une part et interdiction d'affichage de l'autre. La loi de finances de 1976, ou Giscard d'Estaing, comme aujourd'hui, c'est toujours une histoire de gros sous, la loi de finances de 1976 impose, elle, une augmentation de la TVA sur les films pornographiques et décrète une ségrégation entre les cinémas qui diffusent des films X et ceux qui projettent des films qui ne le sont pas. Un film de Serge Korber, L'essayeuse, est d'ailleurs purement et simplement détruit. Je rappelle qu'aucun film ne l'avait été depuis l'occupation. Et la fréquentation des salles spécialisées progressivement diminue, alors même que l'UGC ou Pathé Gaumont décide de même de ne plus diffuser de hardcore dans leurs salles. On le comprend, la situation devenait toujours plus fragile pour le cinéma pornographique qui avait connu, en salle du moins, son âge d'or, auquel l'avènement de la VHS mettra, bien avant l'éclosion du porno en ligne, un terme définitif. Âge d'or dont la fin correspond aussi à la conclusion de la liberté sexuelle qui avait régné pendant une quinzaine d'années sur l'Occident et dont la pornographie avait grandement bénéficié. C'est comme ça qu'on pourrait d'abord entendre pop porn. C'est le moment où la pornographie devient populaire, où elle rencontre un succès populaire. Le porn pour tous, en quelque sorte, s'imposant dans ces années bénies. Malgré toutes ces avanies, le cinéma pornographique des années 70 a inventé un mode de fonctionnement auquel le porn d'aujourd'hui doit encore beaucoup. D'abord, un langage filmique. Plan d'ensemble pour les scènes orgiaques, gros plan sur les organes sexuels et les visages orgasmiques, puis une typologie de figures inlassablement reprises, qu'on pourrait résumer ainsi, fellation, levrette, triolisme et crime paille. Une starification, enfin, qui place sur le devant de la scène ardeur et surtout ardeuse, Tracy Adams, Claudine Beccari, Sylvia Bourdon, Marine Chambers, Serena. Comme le note Didier Roth-Bettoni, le cinéma des années 70 répugne pourtant à s'affranchir d'une approche assez bourgeoise de la sexualité. Et il me semble que cela est assez tangible tant dans les univers, des décors, les costumes, les milieux sociaux évoqués dans le minimalisme d'intrigue qui pourrait être celle de pièces de boulevard dessalées, où se déroulent les films, que dans la palette réduite des positions, des combinaisons, voire des perversions sexuelles qui y sont proposées. Là aussi, le cinéma X de l'époque de Giscard peine à s'affranchir, s'y retrouve en un miroir déformé, une vision moyenne d'une sexualité dite normale qui serait simplement gentiment débridée. Tout ce qui se situe aux marges de cette sexualité-là est rejeté dans l'enfer de l'irreprésentable, pour ne pas dire de l'immontrable. Il me semble cependant que les Roaring Seventies, qui sont comme le pendant des années folles, et je sais qu'Antonio y reviendra tout à l'heure, c'est pour ça que cela m'intéresse, ces Roaring Seventies voient la pornographie connaître un changement notoire dans sa manière de figurer la sexualité. Le hardcore, cette représentation dont l'objectif est de figurer l'acte sexuel dans sa vérité physique, biologique, l'emporte, phénomène qui s'accentuera 20 ans plus tard avec l'arrivée de l'Internet, lequel conduira à une maximalisation des caractéristiques du hardcore, ce qu'incarne justement le gonzo. Mais il ne faut pas s'y tromper, à mon avis, si cette forme brute de la sexualité, désormais au cœur de la pornographie de masse, est tellement appréciée par les cinéastes, c'est d'abord parce qu'elle minimise les coûts de production. C'est sur ces bases, fragiles certes mais stables, que les années 80 voient se produire un bouleversement sans précédent. L'apparition, ou plutôt la seconde démocratisation de la vidéo. En effet, dans la seconde moitié des 70s, la VHS connaît rapidement un développement irrésistible. Naturellement, les cassettes préenregistrées sont dans un premier temps hors de prix. Mais une parade à ce problème est vite trouvée et les réseaux de vidéoclubs se déploient sans tarder, et ce, pas seulement dans les métropoles. On voit même apparaître des systèmes de prêt de cassettes pornographiques par correspondance. Le spectacle du sexe s'invite alors jusque dans les foyers. La demande s'accroissant sans cesse, de nouvelles vedettes s'attirent les faveurs d'un public en quête de nouvelles têtes et de nouveaux corps, plus jeunes et plus jolis que le porn de la fin des années 60 et du début des années 70. Par exemple, Brigitte Lahaie, Vanessa Del Rio, Yoko ou encore Teresa Orlovsky. Soutenue par d'intenses campagnes publicitaires et par une presse spécialisée en plein essor, pour la France, je pense par exemple à Vidéo 7, à Haute Vidéo, à Vertige et Pulsion, etc. Par l'organisation des festivals de l'érotisme, par l'adaptation de magazines en cassette à l'instar de New Look, par la parodie de séries ou films grand public, le X connaît un succès grandissant et pour tout dire, une forme de banalisation qui s'effectue au demeurant à partir des standards californiens qui sont à l'époque parfaitement incarnés par Amber et Ginger Lynn. Grâce à l'apparition du caméscope, puis à la démocratisation de la vidéo portable, apparaissent et se développent les courts et longs métrages mettant en scène des amateurs et surtout des amatrices qui touchent le cœur d'un public lassé des scènes spectaculaires des actrices et des acteurs professionnels. Ainsi, la mode des castings donne naissance à la série des Newcomers, où débute d'ailleurs Tabata Cash, Newcomers qui présente un double intérêt. D'une part, le budget de ces vidéos est extrêmement réduit, de sorte qu'elles ne peuvent jamais, au fond, qu'être rentables. Et d'autre part, le public y trouve une certaine fraîcheur et une certaine nouveauté. C'est sans doute cet attrait pour la nouveauté, voire pour la bizarrerie, qui explique la naissance du hard trash. Dès le mi-temps des années 80, paraissent en effet des vidéos mettant en scène des types de personnages ou d'actions pour le moins marginaux. Des obèses, des nains, des femmes enceintes, et puis des pratiques comme le fist-fucking par exemple, qui viennent rompre avec le porn bon chic bon genre que j'expliquais être dominant dans les années 70 et qui est encore aujourd'hui central dans les vidéos d'Anne Jones ou Vixen ou dans toutes celles qui mettent en scène Faye Regan ou Danny Jensen par exemple. Mais si ce genre du hard trash est tellement important, c'est surtout qu'il met en scène un certain nombre de traits stylistiques qu'on retrouvera au cœur du porn des années 90 et 2000. Montage abandonnant toutes les scènes transitoires, notamment les scènes de déshabillage, mise en lumière de hardeuses prêtes à tout, dialogues explicites qui déboucheront sur le type du dirty talk. Ces années 80 qui marquèrent la fin du 35 mm et l'avènement de la vidéo, annonçant le triomphe du porn domestique, furent aussi celles du sida et des scandales. Ce marketing des scandales étant alors loin d'être l'exclusivité du monde de la pornographie. Scandale en France de Catherine Ringer, la chanteuse d'Erita Mitsuko qui avait tourné des films hard lorsqu'elle était étudiante à Paris 8. Scandale politics, comme on dit en Italie, de la Cicciolina. Scandale aux États-Unis quand il est apparu clairement que Tracy Lord avait commencé sa carrière pornographique en étant encore absolument mineure. Elle est née en 68, de sorte qu'elle avait à peine 16 ans lorsqu'elle a tourné dans ses grands succès pornographiques en 84. Les années 90, dont on pourrait dire qu'elle voit passer le porn de l'hyper-réalisme à la surexposition, poursuit le mouvement amorcé plus de 10 ans auparavant. Les films sont désormais presque exclusivement tournés sur support magnétique et le X représente, même dans une France pourtant à la traîne, 30 à 40% du marché de la VHS. Le hard trash continue son expansion de surenchère en surenchère et les gangbangs deviennent de plus en plus fréquents à partir de 1991. En réaction à ce courant profond et durable du hard trash, un hard glamour se développe qui, sans être véritablement soft, et je pense qu'on reviendra sur cette question de la dialectique du hard et du soft dans la table ronde, des expérimentations d'eau qui, sans être véritablement soft, reprennent les grands lieux communs de l'esthétisation de l'image pornographique par un recours systématique au ralenti, au fondu enchaîné, au noir et blanc, au morphing et aux effets spéciaux, à la mode ailleurs dans la culture pop au même moment, notamment dans les clips MTV et dans les thrillers érotiques de NBC. Dans le mouvement de popification de la pornographie, deux genres ont joué, me semble-t-il, un rôle majeur. Les fumettis et plus globalement la bande dessinée érotico-pornographique d'une part, et de l'autre les parodies cinématographiques X des grands chefs-d'œuvre de la culture de masse. En effet, les fumettis ont joué un rôle central dans l'émergence et la diffusion de la pornographie postmoderne, une pornographie distrayante, une pornographie pop. Non seulement ces bandes dessinées de petit format ont révélé des grands noms, comme Milo Manara par exemple, mais elles ont surtout vulgarisé, ou si l'on préfère, massifié de nouveaux types de scénarios pornographiques. En novembre 62, je le rappelle, sort le premier numéro de Diabolique, reprise italienne du français Fantomas et de l'américain Shadow. Dès lors, les kiosques à journaux d'Italie seront envahis par ces BD de poche, aux titres les plus abracadabrants les uns que les autres, fantasmes, sataniques ou sadiques, qui ne se contentent pas de montrer des étreintes passionnées ou des fesses et des seins dénudés, mais qui associent directement érotisme et violence, sur un mode qui n'est pas sans évoquer les pulps des années 30 à 50. Les 5 numéros de Masochis en 66 montrent ainsi une journaliste, Barbara Brown, qui n'a jamais de plaisir que forcée, battue et fouettée. La même présence du sadomasochisme se retrouve au cœur d'Isabella, de Jacula, de Messalina, de Lucrèce, de Luciferia ou de Magella, où ce que la morale regroupe sous le terme de perversion, voyeurisme et fétichisme est présenté comme une forme de contrôle masculin de la sexualité des femmes. Il faudrait consacrer une étude entière à la manière dont ces représentations sadomasochistes des fumetti sont liées à la figuration antérieure du BDSM, tels que par exemple les dessins de René Giffet pour Cuir et Peau au début des années 30. Et aussi avec certaines bandes dessinées britanniques, lesquelles ont connu une grande effervescence dans les années pop-rock des années 60-70. Je noterai simplement ici que les leitmotifs de la confidence, de l'infraction, de l'étrange alliance de la douceur et de la brutalité et de l'attrait pour la douleur sont essentiels dans ces fictions où ils rejoignent les anciens motifs de la chronique libertine, affranchissement des mœurs et scènes nocturnes de flagellation. Ils renouent également avec des scènes du roman gothique, innocence et beauté des victimes, solitude, univers clos, persécution, tourments physiques et moraux. Tous ces motifs sont du reste essentiels tant dans les fumetti pornographiques que dans la non-exploitation, ce genre du cinéma érotique qui connut un succès considérable en Italie, en Espagne et au Japon dans les années 70. La bande dessinée érotico-pornographique actuelle doit beaucoup à ce genre du fumetto italien dont les productions bon marché connurent en Europe et notamment en France un succès retentissant. Mais l'intérêt de ces fumetti tenait aussi à un usage immodéré et ludique de la parodie. La société postmoderne, à la fois néo-baroque et schizophrène, apprécie au-delà de toute mesure ce style de la parodie qui est le signe formel d'un manque de congruence entre la réalité et sa représentation médiatique, le signe également d'un goût pour la contradiction, voire pour l'incohérence. J'émettrais même l'hypothèse qu'il existe un rapport étroit, intrinsèque, entre la pornographie et la parodie que je pourrais résumer ainsi. Le porn est à l'érotisme ce que la parodie est au prétendu grand art. D'un côté, l'érotisme, art métaphorique de l'allusion, de l'évocation, de l'entrelac du nu et du vêtement, des chuchotements. De l'autre, le porn, exposition détaillée des ardeurs coïtales, marquée par les éclairages artificiels, la stéréotypie des gestes et des postures, les prouesses athlétiques des acteurs et des actrices, leurs cris, le spectacle exubérant des organes sexuels. Dans le premier cas, dans l'érotisme, la culture et les parties hautes du corps réservées aux classes dominantes. Dans le second, la pornographie, la barbarie, l'axe bouche, anus, tube digestif et tube intestinal destiné aux gueux. De même, dans le grand art, l'ancien, prétendument fondateur, la source, le propre, le sérieux, la mesure, la retenue, la bienséance. De l'autre, dans la parodie, l'humour, le comique, le grotesque, la trivialité, la vulgarité, l'infériorité en somme. D'un côté, le chef-d'œuvre originel, qui, soi-disant intemporel et universel, élève l'esprit. De l'autre, des œuvres secondes, qui, travesties et dénuées d'invention, auraient l'impudence de rabaisser à des plaisanteries douteuses les trésors, les modèles du passé. Et si la pornographie est, comme je le suppose ici, essentiellement parodique, il existe en son cœur des parodies poussées dans leur ultime retranchement, des parodies comme au carré, en quelque sorte. C'est cette dimension qu'on trouve au cœur de quantité de films X de l'âge d'or français des années 75-81, dont je parlais précédemment, et même au-delà jusqu'au seuil des années 90. Certes, il existe encore aujourd'hui des productions pornographiques parodiques, du Twilight Vampire Porn au Scooby-Doo Porn, en passant par les contrefaçons hard des princesses Disney, les plagiats pornographiques de Game of Thrones ou les zombies Deep Throat, contrefaisant sur le mode de l'obscénité les films de Romero. Il n'empêche que ce n'est plus un genre dominant et que la parodie, kitsch ou camp, j'y reviendrai, n'occupe plus dans le cadre des fictions excitantes d'aujourd'hui la place centrale qui lui revenait dans les années 70, et ce aussi bien en France que dans l'ensemble des productions occidentales. Dès le début des années 60-70, quantité de réalisateurs s'étaient lancés dans l'adaptation érotico-pornographique des classiques du cinéma. Le brigand de la forêt de Sherwood fut une des premières figures clés de ces transpositions, et en 69, deux fictions paraissent sur les écrans en Italie et aux États-Unis qui fixent pour longtemps l'horizon d'attente sur lequel se détacheront les films et vidéos parodiques pornographiques. D'abord autour de Robin des Bois, puis bientôt autour d'autres figures qui sont touchées par un geste parodique analogue. Pinocchio, d'abord en 71, connaît des aventures érotiques, mais qu'on dirait aujourd'hui pornographiques. L'affiche précisée, je le rappelle, il n'y a pas que son nez qui grossit. Alice au Pays des Merveilles donne naissance à un film pop pornographique en 76, puis Cendrillon en 77, dans un softcore musical qui met en scène et en vedette Cheryl Smith, actrice récurrente des films d'exploitation des années 70-80. C'est ensuite le tour de Blanche-Neige, de La Belle au Bois dormant, du Petit Chaperon Rouge, des Mille et une Nuits, de Notre-Dame de Paris, de La Belle et la Bête, de Peter Pan, devenant Peter Porn en 1987. Puis c'est Les Trois Mousquetaires, Roméo et Juliette, enfin, dont la vie sexuelle est mise en scène dès 69 et qui occupe tour à tour les grands écrans avant d'être vendu avec grand succès en VHS. Cependant, ces films ne visent pas une simple fonction masturbatoire. Ils révèlent aussi le goût de l'époque de la contre-culture pour le jeu, le comique, l'obscène, le kitsch, la subversion, la réflexivité, l'incongruité, les cocasseries, le grotesque, l'autodérision, l'appropriation, les enfantillages, la critique impitoyable et pourtant amusée d'une culture patrimoniale ossifiée. De ce point de vue, il me semble que tous ces films pornographiques manifestent plusieurs tendances dont il convient de souligner la portée en termes théoriques. D'abord, parce qu'elle reprend une œuvre originale pour la détourner de son sens premier, la parodie entretient un lien étroit avec le kitsch. Et kitsch, c'est bien l'esthétique à laquelle appartiennent tous ces films soft ou hardcore des années 70-80. À cet égard, ces derniers me semblent avoir été tournés par des réalisateurs qui ont en commun, pour reprendre la manière dont Jameson analyse la logique culturelle du capitalisme tardif, d'être fascinés par le paysage dégradé de la pacotille et du kitsch. Cette attitude est directement liée au désir d'effacer la vieille opposition entre la grande culture et la culture dite commerciale, la culture de masse. Et le kitsch pornographique serait, dans les mains des grands réalisateurs de l'époque, conçu comme une arme humoristique et destructrice contre l'élitiste moderniste. Voilà qui me conduit à émettre une autre hypothèse. Cette esthétique du kitsch cochon n'est peut-être rien d'autre qu'une parodie des fondements et des grandes figures de l'avant-garde. On comprend mieux en son sens que China in Wonderland, par exemple, en 87, soit prétendument cadré par un certain Jean-Cul Grodard, s'amusant à parodier l'éthique formelle de la nouvelle vague, de Godard bien sûr, mais aussi de Romère, de Chabrol, de Truffaut. Le kitsch en matière sexuelle et obscène serait ainsi lié non seulement à l'hybridation, mais aussi à la réflexivité dont je soulignais l'importance précédemment. Cependant, pour que le phénomène de récupération caractéristique de la culture pop fonctionne à plein, il est judicieux que le mouvement parodique porte sur les formes médiatiques dominantes, en l'occurrence dans les années 70-80, sur la télévision et les comics, et sur les genres qui sont d'ores et déjà considérés comme majeurs au sein de la culture pop. Science-fiction, comédie musicale, films d'horreur, films d'espionnage, western, films d'aventure. De fait, la pornographie des années 70-80 s'est très rapidement saisie des grandes séries télévisées de l'époque. Dès 1981 sort un Dalax X, qui passe en revue toutes les combinaisons sexuelles possibles au sein de la famille Ewing, ou plus exactement Brewing. On comprend que la structure même du soap-opéra, qui multiplie les infidélités, les séparations, les réconciliations, se prête à merveille au détournement pornographique et bientôt paraissent des reprises de Dynasty, par exemple. Ça commence dès les années 86, 87, 88. Peu à peu, c'est l'ensemble de la production télévisuelle qui se trouve sexualisée, pornifiée. Cagné et Lassie, la célèbre série, donne lieu à un travestissement pornographique avec Stacy Donovan et Erika Boyer en 1984. Ensuite, un film réalisé par Roy Karsh, à qui on devra d'ailleurs un Funky Brewster, parodie obscène de Punky Brewster, la célèbre sitcom enfantine de NBC. Mais si on peut s'étonner de cette dernière reprise, transgressive à plus d'un titre, on s'attendait en revanche aux reprises sexuelles de Drôle de Dame, qui se multiplient de 77 à 85, ou à celle de Miami Vice, dont les variations sont si nombreuses qu'on pourrait presque parler de Vice-Pritation comme d'un genre autonome en 84 et 85. Quantité de séries sont ainsi traitées sur un mode qui doit être interprété comme le symptôme du déclin, voire de la dégénérescence de certains types de fiction, y compris de fiction pop qui semblait pourtant connaître leur période de gloire, mais qui en réalité commençait déjà à tomber en désuétude. Cependant, ce symptôme de déclin est aussi un hommage rendu à des œuvres qui sont vues comme cruciales dans la pop postmoderne. De ce point de vue, la parodie est directement liée au détournement et à l'appropriation de deux idées fixes de la culture de masse, et ce sont tous les bijoux de la sérialité télévisuelle qui sont in fine contrefaits dans le registre pornographique. La série Chips, par exemple, et puis Love Boat, la croisière s'amuse, devient Sex Boat aux États-Unis et en France, la croisière s'encule. L'agence Tourisque donne naissance en 84 et en 85 à deux parodies hypersexuelles. Et les mêmes processus s'appliquent à Super Jamie ou à Muffy's Vampire Layer avec Lacey Rose, la célèbre brunette de Laguna Beach. Même les sitcoms Déby Productions sont brocardés et paraîtra ainsi en 1994 un Hélène et les cochons qui, réalisé par Gilles Viennet, met en scène Valiverdi et Rebecca Lord, deux pornstars montantes de l'époque. Il me semble que des questions d'importance pointent là qui méritent d'être exposées. Ces parodies ont-elles bien encore cette fonction d'excitation sexuelle qui définit la pornographie? Et si tel n'est pas le cas, à quel moment peut-on considérer qu'elle bascule dans le ridicule, ridicule qui ne fait pas bon ménage avec le sexe? Quand passe-t-elle au juste du côté du kitsch? Et puis, du kitsch ou du kemp, registre lié à l'ironie, cette pratique courante dans notre société du simulacre? Si on peut encore concevoir que les scènes orgiaques des parodies de 21 Jump Street, par exemple, puisse exciter spectateurs et spectatrices, il est tout de même difficile, même si tous les goûts sont dans la nature, d'imaginer que The Red Hot Red Runner en 87, dans lequel le hardeur porte un costume en mousse à l'effigie du célèbre coyote, puisse susciter le désir, même si, convenons-en, El Rio ou Angel Kelly sont bien jolis dans le rôle de Big Beep. La mise en scène de cette sexualité, comiquement hiérogamique, tend ouvertement vers le grotesque. Mais un grotesque qui, contrairement à ce qui se passe dans l'univers des comics ou dans les fictions de Tim Burton ou de Terry Gilliam, n'est pas opposé à cet ennemi sérieux qu'est le capitalisme bourgeois. La parodie, le grotesque en matière pornographique n'ont rien d'un effet de distanciation qui obligerait spectateurs et spectatrices dont l'identification serait enrayée. Comment s'identifier à un gros coyote déguisé sodomisant une hardeuse costumée en volaille? Il n'y a pas ici d'effet de distanciation qui pousserait le spectateur à réfléchir à l'exploitation dont il est victime, à se façonner peu à peu une conscience de classe ou à développer une imagerie utopique à appeler à une rébellion de sa part. Il me semble plutôt qu'il s'agit de développer une pornographie kemp, ce registre qui, prégnant dans la culture depuis les années 60, consiste à poser un regard artistique sur des formes que l'on peut considérer comme kitsch ou dépourvues d'intérêt esthétique. Esthétique du second degré, cette fiction pornographique se prive elle-même de réalisme, ce réalisme qui est au cœur de la pornographie filmée depuis les stack films des années folles. Cette incongruité est particulièrement sensible dans les parodies X de films de science-fiction qui, à l'instar de ce qui se passe dans le Bip Bip et le Coyote, sapent par une forme étonnante de trivialisation et de travestissement burlesque le sérieux des scènes sexuelles, rompant ainsi l'illusion nécessaire à l'efficacité excitatoire du spectacle pornographique. Ces productions paradoxales sont sans cesse prises entre identification et écart, continuité et rupture, et elle touche d'abord le monde de la science-fiction. Dès 1974 sort en effet une parodie de 2001 Odyssée de l'espace, puis ensuite c'est tous les grands chefs-d'œuvre de la science-fiction qui sont touchés par la parodie sexuelle, par la parodie pornographique, Flash Gordon, dont le titre au Japon est d'ailleurs Space Wars, qui renoue avec les comics et qui s'oriente résolument vers une pornographie soft, éliminant toutes les scènes hard. On assiste ensuite à un télescopage pornographique du space opéra et de la science-fiction qui s'intensifie et se poursuit jusqu'aux années 90, notamment justement à travers la parodie de la guerre des étoiles. Il en sort pratiquement une version pornographique tous les ans à partir de 1977, de sorte que toutes les icônes de George Lucas sont petit à petit pornifiées. R2-D2, C3PO, les Stormtroopers et bien sûr la princesse Leia qu'on retrouve encore aujourd'hui au cœur de bien des vidéos pornographiques sur les tubes avec ses célèbres macarons cache-oreilles. Ce cinéma pornographique loufoque, qui aimait s'en prendre à l'épopée Skywalker pour modèle, ouvrira sur une véritable tradition de la parodie science-fictionnelle qui se concentrera bientôt sur Terminator, puis sur Star Trek, donnant naissance à une saga de 5 épisodes tournée à la fin des années 80 et au début des années 90. Mais là encore, on assiste à une double surenchère, surenchère d'abord dans l'exhibition sexuelle, et il me semble que c'est d'ailleurs là une des lois du hardcore qui cherche toujours à en faire plus en montrant toujours au fond la même chose, puis une surenchère aussi dans l'extravagance, dans la bizarrerie. Ces propensions à la surenchère et à l'excentricité se trouvent associées dans un film brésilien de 1986 dans lequel un cousin d'E.T. arrive sur Terre et découvre étonné tous les possibles de la sexualité humaine. C'est un type voisin de bizarrerie qui réapparaît dans plusieurs parodies, non plus de films de science-fiction cette fois, mais de films musicaux et même de clips. Parodie sexuelle de Flashdance en 85, puis de La fièvre du samedi soir, puis de Dirty Dancing en 88, et même les clips les plus célèbres des années 80 se trouvent à la fois brocardés et sexualisés. C'est le cas sans surprise des clips de Madonna. C'est en réalité aussi le cas de quantité de clips des années 1985-1989. À vrai dire, autour de la reine de la pop, le porn et la culture de masse qui s'étaient rapprochés dans les 70s s'agrègent désormais jusqu'à se confondre, mouvement que je voudrais regarder d'un tout petit peu plus près pour conclure rapidement en quelques minutes. Il me semble que la dissémination de la pornographie dans tous les genres de la culture pop, télé-réalité, tube internet, jeux vidéo, magazines de mode, etc., explique aussi la naissance de nouveaux types comme la sextape, qui s'inscrit dans des stratégies d'autopromotion compliquées, ce dont le déjà ancien One Night in Paris était la marque, et qu'on retrouve dans les mises en scène plus ou moins volées, plus ou moins assumées, des exploits sexuels de Kim Kardashian, de Tonya Harding ou même de Colin Farrell. Devenue centrale dans la culture pop, la figuration pornographique de la sexualité est aussi passée dans des œuvres qui, loin de se vouloir pop, visent à être rattachées au corpus de la culture savante. C'est la tradition de ce qu'on appelle aujourd'hui la pornographie parcellaire. Et puis, il me semble aussi que les codes de la pop-porn sont aujourd'hui tellement centraux qu'ils expliquent le succès d'artistes qui associent indissolublement monstration explicite du sexe et culture de masse. C'est le cas, ce me semble, de Miley Cyrus. On a bien connu celle-ci à Califourchon sur sa boule de démolition géante et mimant une fellation à un marteau dans son fameux clip de 2013. On l'a connu tirant sur son body et révélant son pubis à quatre pattes sous l'objectif de Terry Richardson dans des photographies qui sont d'ailleurs autant de pastiches et de parodies des clichés des grands magazines de charme de la deuxième moitié du XXe siècle. On l'a même connu chanter les louanges du GHB, suggérant à quiconque aurait du mal à conclure sexuellement d'en glisser dans le verre de sa proie. Le terme me semble important. Elle est devenue une figure centrale de la pop culture actuelle. Née du club de Mickey, elle est un pur produit hollywoodien, mais à la fois lubrique, glaciale, puérile et blasée. Elle appelle à la révolte contre cette même culture pop qui l'a façonnée et elle rejette ce qu'elle fut, la blonde et joufflue Hannah Montana, l'héroïne Disney de la bienséance normative à qui elle doit sa célébrité. Si Hannah Montana était l'emblème d'une féminité réduite à la douceur et à la passivité, Miley Cyrus prône une sexualité extrême qui doit beaucoup à la pornosphère. D'un côté, en effet, elle aime à exposer son corps dont elle fait un spectacle sexuel permanent. Mais d'un autre côté, cette obscénité littérale lui sert à construire un discours idéologico-politique sur les nouvelles frontières identitaires, l'émancipation sociale, la sexualité 3.0, la fluidité des genres. De ce point de vue, elle est à la fois le reflet et le produit fascinant de la société hypermoderne de notre culture pop actuelle, comme Madonna ou Britney Spears furent, pour des raisons sexuelles analogues, les reflets et produits de la société postmoderne triomphante, puis déclinante des années 1980-2000. Pour pointer la pornification actuelle du showbiz, Miley Cyrus récupère, trouble et intensifie des attitudes dont l'émergence s'est produite dès les années 80. Et pour ce faire, elle reprend à son compte la manière dont les chanteuses punk transformaient les références prostibulaires en armes subversives. Théâtraliser la sexualité pour en dénoncer la réification, c'est aussi ce que fait Miley Cyrus sur un mode qui n'est pas sans évoquer les anciens spectacles de monstres et le new burlesque. Et tout se passe comme si, en poussant dans ses derniers retranchements la sexualisation de la société du spectacle américaine, elle parvenait à créer un nouveau type de monstre sexuel, un monstre qui renouvellerait le féminisme dans notre ère post-féministe. À l'instar de Beyoncé ou de Rihanna, elle représente à la fois un nouvel engagement de la pop et une nouvelle étape et une nouvelle époque dans la sexualisation de cette dernière. Car si les chanteuses s'étaient naguère à approprier les codes masculins pour les subvertir, c'est désormais la nudité et l'hypersexualisation qui jouent un rôle contestataire. C'est ainsi qu'il convient d'interpréter jusqu'à ses costumes, son univers et son uniforme pop trash, à la fois hétéronormé et crypto-queer. Je pense notamment aux photographies du numéro de V Magazine de mai 2013, où elle pose hyper maquillée en slip kangourou et bottes de combat. Se revendiquant bisexuelle et libérée d'un système patriarcal qu'elle moque et dont pourtant elle respecte les règles à la lettre, reprenant les standards de la musique country, mais chantant en duo avec Dolly Parton aussi bien qu'avec Wiz Khalifa, Recherchant à la fois l'approbation de la pensée phallocentrée et les encouragements des féministes, Miley Cyrus met régulièrement en scène une sexualité qui tient du spectacle pornographique. Des films X à succès de Brigitte Lahaie, aux clips ultra-érotiques qu'on connaît aujourd'hui, des fumetti porno fantastiques, jusqu'aux parodies de Hunger Games sur YouPorn, les frontières entre exhibition de la sexualité et pornographie de divertissement devient sans cesse plus évanescente. Il s'agit, dans tous les cas, d'offrir aux Zoomers, la fameuse génération Z née entre 97 et 2010, les contenus qui correspondent à ces attentes et fonctionnent selon les procédés en vogue, au premier rang desquels le sweep et le scroll, qui ont gagné tous les domaines de la vie. Ce qu'on voit se produire au cœur des rapports entre pornographie et culture pop ne peut être réduit à un simple transfert d'influence, mais plutôt d'échange, de transfert culturel, c'est-à-dire de circulation et de mutation d'images, de procédés techniques et de fantasmes. Si l'on accepte d'appliquer à la pornosphère les notions et concepts de l'histoire croisée, de la médiation artistique et des transfer studies, on comprend que c'est à un double mouvement qu'on assiste depuis les années 60-70. D'un côté, une popification du porn qui se fait sur le mode du pastiche ou de la parodie sexuelle, des œuvres de la culture de masse. D'un autre côté, une pornification de la culture pop, ce phénomène que Virginie Despentes a pointé en mettant en évidence, je la cite, « la déferlante de chaudasserie dans l'entreprise pop ». Il me semble que dans ce double mouvement du porno-pop et du pop au porn, il se joue aussi, je crois, quelque chose d'autre, quelque chose qui tient du jeu, du trouble, de la déconstruction et du renforcement, pourtant, des stéréotypes de genre, au double sens de construction sociale du sexe, bien sûr, mais aussi de production sémiotique, construisant à travers une réception en série et en toute liberté, une communauté d'amateurs qui sont aussi des herméneutes. Je vous remercie.
Nous allons passer directement à notre prochain participant. Donc, c'est Albin Le Garrois de l'Université Bordeaux-Montaigne qui va nous parler de Elizabeth Bathory de Raulo Cáceres ou l'impossibilité du sexy, point d'interrogation.
Elizabeth Bathory de Raulo Cáceres est une bande dessinée pornographique parue en Espagne entre 1998 et 2001, puis aux États-Unis entre 2002 et 2004. Ce n'est qu'en 2021 qu'elle a été traduite pour le public francophone aux éditions Tabou. Si mes souvenirs sont bons, dans son livre, Sébastien Hubier parle des éditions Webcomics espagnoles, et donc c'est chez eux qu'elle a été éditée. L'auteur est connu pour avoir travaillé avec des scénaristes de comics connus, par exemple Warren Ellis. Toutefois, il a dessiné et scénarisé de nombreuses bandes dessinées pornographiques, dont une adaptation de Sade. L'œuvre qui nous intéresse ici se déroule d'ailleurs dans un univers sadien où de nombreux vampires, dont la comtesse Bathory, luttent les uns contre les autres, se violent et se dévorent les uns les autres. En cette période MeToo, et peu après le scandale de Bastien Vivès traité abondamment ces derniers mois en France, il pourrait paraître surprenant que nous ayons décidé d'étudier une œuvre telle que cette bande dessinée. Viol, torture, inceste, rien ne sera épargné à la communauté lectrice. Toutefois, il nous a paru intéressant de la confronter à une citation de Barthes qui nous paraît elle-même problématique. Différent de la sexualité et seconde, le sexy d'un corps qui n'est pas sa beauté tient à ce qu'il soit possible de marquer, de fantasmer, en lui la pratique amoureuse à laquelle on le soumet en pensée. J'ai l'idée de celle-ci précisément et non de telle autre. Pourquoi des mots tels que marquer ou soumettre ont été choisis? Présentés tels quels, il nous semble que Barthes fait de son opinion une sorte d'invariant faussement naturel, processus qui ressemble fort de l'idéologie, sujet souvent traité par l'auteur lui-même. C'est donc avec ces quelques idées que nous avons décidé d'aborder l'œuvre de Cáceres, une œuvre où tout le monde essaye de marquer tout le monde et où la soumission reste une constante à presque chaque page. Entendons-nous bien, ce ne sera en aucune manière un procès contre Barthes, qui de toute façon n'aurait pas forcément été très intéressé par le contenu à forte dominante hétérosexuelle de la bande dessinée, ni même contre Cáceres qui, comme nous le verrons, signe une œuvre beaucoup plus ambiguë que ce qu'elle semble être au premier abord. Nous essaierons juste de montrer ce que cette soumission pourrait sous-entendre et si l'on pourrait sortir du cadre de cette définition de sexy. Pour ce faire, nous analyserons ceux qui soumettent, puis nous expliquerons ce qu'ils veulent faire réellement en soumettant, et enfin, la possibilité, justement, d'une impossibilité de cette soumission. Dans l'univers sadien décrit par Cáceres, la plupart des protagonistes veulent imposer des relations sexuelles à globalement tout le monde. Évidemment, une communauté lectrice peu attentive pourrait tout d'abord y voir une hyper-représentation des rapports de genre entre les hommes et les femmes sous le patriarcat. En effet, tout oriente vers une lecture où la féministe Andrea Dworkin, militante féministe anti-pornographie, semble avoir raison lorsqu'elle écrit. Je cite « Les hommes possèdent les femmes quand les hommes baisent les femmes, parce que tous deux font par là l'expérience de la virilité de l'homme. Voilà la stupéfiante logique de la domination masculine. Dans cette optique, qui est l'optique dominante, la masculinité est agressive et violente. Et donc, la baise, où l'homme et la femme éprouvent tous deux la masculinité, exige essentiellement l'effacement de la femme en tant que personne, donc en étant baisée, elle est possédée, cesse d'exister comme individu distinct et subjugué. Fin de citation. Il y a néanmoins une double domination présente dans la bande dessinée. Si les hommes possèdent les femmes quand ils les baisent, il faut qu'ils les possèdent aussi dans un premier temps. Le statut social est alors souligné. Roi des vampires possédant les femmes de sa cour, seigneur démon possédant ses sorcières, servantes et même père de famille possédant ses filles. On pourrait de même affirmer ici, dans le même ordre d'idée, que le mariage est une institution où l'homme possède sa femme, théorie développée par Cora Pettman. Nous remarquons dès lors des relations sociales asymétriques, et ce, même sans sexualité. Cette dernière ne serait alors que secondaire. Toutefois, dans l'univers de Bassory, ce constat est, dans une moindre mesure, applicable aussi aux femmes. Ainsi, la médium, fait revenir l'âme de son défunt mari et possède celle-ci pour qu'il continue à lui faire de l'amour. Là encore, c'est une domination d'une personne sur une autre dans le but d'un acte sexuel. Enfin, la nymphe tueuse de vampires est en position de supériorité hiérarchique sur le sorcier avec qui elle veut avoir des relations sexuelles. L'on pourrait imaginer que la relation est ambiguë. Certes, elle a une position d'autorité, mais sa relation sadomasochiste, où elle se retrouve soumise, rend caduque cet état social. Ce serait oublié, entre autres, Deleuze, lorsque celui-ci écrit à propos du masochiste, je cite, « Nous sommes devant une victime qui cherche un bourreau et qui a besoin de le former, de le persuader et de faire alliance avec lui pour l'entreprise la plus étrange. » Fin de citation. La victime crée son bourreau, elle reste dès lors la dominante dans la relation sexuelle. Malgré les apparences, elle le possède bien plus que l'inverse. En somme, toutes ces relations sexuelles présupposent une domination sociale originelle. Pour revenir à la citation de Dworkin, toutes ces situations ont un point commun. Toutes les relations sexuelles présentées, et même celles où les femmes ont la place des hommes dans le schéma de la féministe, visent à posséder autrui. La sexualité aurait donc comme but l'effacement de la personne soumise, celle-ci n'ayant alors plus d'individualité distincte. Elle serait forcée de partager l'identité, la masculinité pour la féministe, du dominant. Dans ces conditions, la baise, selon Dworkin, serait donc une duplication du dominant, son duplicata partageant alors l'identité de celui-ci. Nous retrouvons alors ce que Jean-Luc Nancy écrit à propos de la communauté. Citation. Distincte de la société, qui dissout la communauté en soumettant les peuples à ses armes et à sa gloire, la communauté n'est pas seulement la communication intime de ses membres entre eux, mais aussi la communion organique d'elle-même avec sa propre essence. Elle n'est pas seulement constituée d'une juste distribution des tâches et des biens, ni d'un heureux équilibre des forces et des autorités, mais elle est faite avant tout du partage et de la diffusion de ou l'imprégnation d'une identité dans une pluralité dont chaque membre, par la même, ne s'identifie que par la médiation supplémentaire de son identification au corps vivant de la communauté. Fin de citation. L'on pourrait discuter ici des a priori hérités, il nous semble, d'une conception de la communauté qui date des travaux de l'anthropologue du XIXe siècle, Johann Jakob Bachofen, qu'on retrouve chez William Rasch, Bataille, Blanchot, Deleuze et accessoirement tous ceux qui s'en inspirent, pour ne pas les nommer, le comité invisible par exemple. Le dominant, chez Caceres, ne veut pas une société, mais bien une communauté. Elle n'est en rien constituée d'une juste distribution des tâches et des biens, ni d'un heureux équilibre des forces et des autorités. Néanmoins, tous les membres dominés partagent et diffusent bien une seule identité, celle du dominant, la personne qui a baisé. Chez Caceres, le vampirisme ne se propage pas avec la sexualité. Il semble néanmoins que cette structure se retrouve souvent dans d'autres œuvres de culture populaire traitant du vampire. Si l'on fait un parallèle entre la morsure vampirique et l'acte sexuel, ce qui a souvent été fait, nous noterons que, par exemple, dans Fright Night ou Vampire, vous avez dit vampire en France, de Tom Holland, le vampire transforme la femme en vampire, donc en lui-même, en la mordant. Toutefois, comme celle-ci n'a pas encore tué, il suffira de détruire l'original pour que la femme redevienne elle-même. L'identité, dans ces conditions, devient donc virale. Nous trouvons donc un parallèle entre le statut social, chef de la communauté, et la sexualité en elle-même. La direction ne peut se faire que sur des gens qui ont le même but que soi, donc la même identité, et pour ce faire, il faut les baiser. La sexualité devient donc ici une discipline, au sens où Foucault l'entend, une technique spécifique du pouvoir qui fabrique des individus. Dès lors, nous voyons l'utilité de l'insulte et de l'injure dans les dialogues hommes-femmes. Comme Didier Ribon le fait remarquer à propos des gays, Citation, l'injure est énoncée performatif. Elle a pour fonction de produire des effets et notamment d'instituer ou perpétuer la coupure entre les, entre guillemets, normaux et ceux que Goffman appelle les, entre guillemets, stigmatisés. Fin de citation. Nous remarquons donc ici que les insultes sont un moyen de classifier les gens en deux catégories, les normaux et les déviants. Les normaux, dans notre situation, seraient ceux et celles qui partagent l'identité du dominant. Les insultés seraient ceux et celles qui ne la partagent pas. Or, ces derniers sont insultés parce qu'ils ont des envies sexuelles propres. Cela en fait, dans le cas des femmes, des salopes. Si une personne a des désirs sexuels, il faut la soumettre, la discipliner, voire la violer. Le lecteur ou la lectrice objectera que, selon notre raisonnement, ces pratiques ont comme but de transformer cette personne en nouvel individu, un individu pareil au dominant. Or, si l'on discipline la personne ayant des désirs sexuels, il faudrait que cette dernière devienne sans désir pour qu'elle devienne, entre guillemets, normale. Difficile d'imaginer alors que dans cette bande dessinée, les dominants n'aient aucune envie sexuelle. Cela nous paraît un peu plus complexe. Prenons comme exemple le seigneur vampire. Lorsque, interrompu dans son raisonnement par Bassori, qui joue avec son pénis, celui-ci dit « Maudite, tu as excité ma luxure jusqu'aux limites de ma perversion. Maintenant, je vais devoir assouvir mon péché mignon, arracher ta putain de tête à coup de bits. » Merci l'université de pouvoir me permettre de citer ça. Si l'homme soumet ici la femme, c'est parce qu'elle l'a excité. S'il a des désirs sexuels, c'est à cause d'elle. Pour reprendre un topos de la culture du viol, selon lui, elle l'a bien mérité. Sans Bassori, celui-ci serait resté calme, sans désir sexuel. La sexualité dominante a donc deux utilités. Discipliner l'altérité pour qu'elle efface son individualité, par exemple lui à l'arracher la tête, et redevenir soi-même un être sans excitation. En somme, sans altérité, pas de désir. Paradoxe de ces créatures, l'utopie de ces dominants caractérisés par leur furie sexuelle serait un monde sans altérité et donc sans sexualité. Nous retournons dès lors la citation de Barthes, c'est parce que le corps est sexy que l'on fantasme de le soumettre à une pratique amoureuse, au moins par la pensée. Pourquoi ils soumettent la réplique de Bassori à la déclaration du seigneur vampire précédemment citée nous semble utile pour comprendre les motivations des dominants de cette bande dessinée. Pour que tu me fasses le coup à chaque fois. La communauté lectrice comprend dès lors que ce n'est pas la première fois que Bassori a la tête arrachée et qu'elle en développe même une certaine lassitude, alors que nous aurions pu imaginer une expression de douleur, au moins de sa part. Les actes des dominants sont donc répétitifs, sans surprise. Nous pouvons mettre ce comportement en parallèle avec ce que Roger Cavaillès écrit à propos de la périodicité. Citation. C'est dans l'absence de périodicité qu'il faut chercher sa signification profonde. Un système, en effet, est dit chaotique s'il est apériodique dans le temps comme dans l'espace. Or, c'est précisément ce caractère de périodicité et donc de régularité qui fonde chez Laplace la croyance au déterminisme. C'est la périodicité du mouvement des planètes autour du Soleil qui permet de prévoir avec certitude leur position future. À l'inverse, la périodicité chaotique nous signifie l'impossibilité d'une anticipation certaine. Fin de citation. Il serait maladroit, vu nos compétences, de prendre parti dans la querelle, entre guillemets, qui oppose partisans d'un chaos déterministe, par exemple Henri Atlan, et ceux d'un chaos non déterministe, par exemple Ilya Prigogine. De plus, cela dépasserait le cadre de notre article. Notons juste que cette querelle existe. Néanmoins, nous pouvons affirmer que la reproduction régulière de schémas de la part du seigneur vampire permet à Bassori d'anticiper ce qui va arriver. Or, comme l'explique justement Atlan, en absence d'erreur de réplication, aucune nouveauté ne peut apparaître. Le monde des dominants a pour vocation de se répéter. Nous l'avons vu pour les individus, puisque tout leur entourage doit être à leur image. Nous le voyons maintenant dans leur pratique sexuelle. Tout est centré sur l'exclusion d'une quelconque altérité ou nouveauté. Ils sont pris dans une dynamique de reproduction constante du même. Imaginons maintenant une période temporelle qui s'auto-reproduirait constamment, excluant toute possibilité de nouveauté, une sorte de présentisme radical. Cela serait, il nous semble, l'une des définitions de l'immortalité. Nous comprenons alors la réplique d'un des vampires dominants. J'ai la phobie de la modernité, je ne me vois pas conduire une automobile en veste et en cravate. Tout ce qui est nouveau est potentiellement dangereux, donc sujet à phobie. Dès lors, il est facile de mettre en parallèle l'immortalité de certains vampires de Caceres et ce présentisme. Mais même la médium peut être considérée selon ce prisme. Elle fait revenir constamment son mari parce qu'elle ne peut admettre la nouveauté de sa disparition. Nous insistons sur le certain vampire. En effet, il apparaît que ce soit dans Bassori ou dans les créations culturelles en général, deux conceptions du vampirisme qui se chevauchent parfois. Par exemple, dans Dracula de Bram Stoker ou dans le jeu vidéo Veil of Darkness, le monde et le temps semblent s'être figés autour du vampire. Par exemple, dans le jeu vidéo, la technologie et les coutumes des habitants d'une vallée se sont arrêtées dans un passé indéterminé à l'image du vampire. Ils sont sortis du temps et sont pareils aux dominants dont nous traitons ici. Ailleurs, comme par exemple dans Carmilla de Sheridan Le Fanu ou dans le livre d'horreur punk After Dark donc de Nancy Collins, le vampire meurt et renaît constamment, ce qui lui confère une autre forme d'immortalité. Elle est ainsi plus proche d'une représentation de la nature. Nous retrouvons alors l'archétype qui correspond à Bathory. D'un côté, des êtres sortis du temps et par là même de la nature, avec ses hasards et ses nécessités. De l'autre, des êtres de pure nature à son image. La communauté lectrice pourrait parler d'influences variées, expliquant ces deux formes presque opposées d'immortalité. Nous ne le nions pas. Nous pouvons toutefois souligner que les êtres hors nature sont des hommes et que les êtres de nature sont des femmes. Nous retrouvons alors un topos de la culture patriarcale décrit ainsi par Carol Bateman. Citation. Les femmes, leur corps et leur passion corporelle représentent la, entre guillemets, nature, qui doit être contrôlée et transcendée afin que l'ordre social puisse être créé et conservé. Dans l'état de nature, l'ordre social dans la famille ne peut être maintenu que si le mari est le maître. Le désir féminin, illimité par définition, doit toujours être contenu par le droit patriarcal. Les relations des femmes au monde social doivent toujours être médiées par la raison des hommes. Le corps des femmes doit toujours être soumis à la raison et au jugement des hommes pour que l'ordre ne soit pas menacé. La flûte enchantée de Mozart en fournit une représentation particulièrement saisissante. Fin de citation. Cette citation fait écho à ce que nous avons déjà vu chez Caceres. Le désir féminin est un danger. Pire, il pourrait séduire. Bathory est un être de nature. Elle doit donc être contrôlée et devenir pareille à l'homme, une personne contrôlant sa propre nature, son désir, un être de, entre guillemets, raison. C'est seulement ainsi que l'ordre social pourra être conservé. Il faut concevoir cet ordre comme une situation où tout serait similaire, où tout le monde aurait la même identité et où le temps serait figé, sans aucune possibilité de nouveauté, cette dernière entraînant alors forcément le chaos. En somme, l'ordre patriarcal décrit ici n'a aucune erreur de réplication. Il nous semble dès lors pertinent de comparer notre analyse à ce que Gilles Lipovetsky dit à propos de la femme séduisante à partir de Baudelaire. Citation. Parce qu'elle est idole, la femme doit se dorer pour être adorée. Donc ça, c'est de Baudelaire. Ainsi, est-ce bien dans son droit, et même elle accomplit une espèce de devoir en s'appliquant à paraître magique et surnaturel. Toujours Baudelaire. En empruntant, il recite Baudelaire, à tous les arts, les moyens de s'élever au-dessus de la nature pour plaire et frapper les esprits. Ce qui fait la séduction ne réside pas dans le corps naturel ou dans les traits du visage, mais dans les artifices qui les corrigent, les transfigurent, les rendent magiques. Point de séduction sans déformation sublime de la nature, sans essai permanent et successif de réformation de la nature, sans la majesté superlative des formes artificielles. C'est, pour parler comme Bataille, ce qui nie l'animalité qui augmente les attraits, séduit et éveille le désir. Plus les formes sont irréelles, moins clairement elles sont assujetties à la vérité animale. Mieux elles répondent à l'image assez répandue de la femme désirable. Seul l'artifice antinaturaliste ou surnaturaliste est sensuel, beau, érotique. La séduction opère par artialisation du corps et du visage, par dénaturalisation et surenchère, intensification et exagération. Fin de citation. Au vu de ce que nous avons écrit, l'affirmation de Lipovetsky n'a rien d'un invariant, qu'il soit moderne, post ou hyper moderne. Au moins, chez Caceres, ou en tout cas pour ses personnages, c'est parce que la femme est naturelle qu'elle séduit, et c'est parce qu'elle séduit qu'elle est dangereuse. Certes, les hommes voudraient qu'elle soit au-dessus de la nature, l'ordre serait ainsi conservé, c'en serait même un devoir pour elle, pour reprendre Baudelaire. Néanmoins, la communauté lectrice pourrait se demander qui a décidé de ce devoir. Si c'est l'homme, ou plus particulièrement Baudelaire, l'on comprend alors cette idée. Bataille et Baudelaire désiraient des idoles, mais à quelle fin? Lipovetsky ne le dit pas. Il ne dit pas non plus les pratiques sexuelles réelles des deux auteurs. Peut-être désirait-il des déesses pour l'ordre, mais ne couchait qu'avec ce qu'il considérait comme des animaux. Connaissant Baudelaire, cela ne nous étonnerait qu'à moitié. La femme supérieure à la nature n'a aucun désir sexuel, contrairement à la femme dite naturelle. Mais je dois avouer que des fois, il est un peu limite Baudelaire. Bathory ou l'impossibilité de la soumission. Parmi tous ces vampires, il en existe une qui semble peu affectée par cette dynamique de pouvoir. Elisabeth Bathory. Elle paraît libre en toutes circonstances et c'est bien elle qui survit à la fin sans que son état soit radicalement changé, du moins si l'on ne se concentre que sur le schéma narratif de la bande dessinée. Or, nous verrons que c'est un peu plus complexe que ce que l'on pourrait penser au premier abord. Pour comprendre le comportement de Bassory, il nous paraît utile de voir les théories du cybernéticien Norbert Wiener. Qu'est-ce qu'il dit, Wiener ? Citation. « Certaines sortes de machines et quelques espèces d'organismes vivants, particulièrement les plus élevés dans l'évolution, peuvent modifier leur modèle de comportement en fonction de leur expérience passée pour contrecarrer l'entropie. Dans ces plus hautes formes d'organismes communicants, leur milieu, que nous considérons ici comme l'expérience passée de l'individu, peut modifier le modèle de conduite en un autre qui, d'une façon ou d'une autre, sera plus adéquat aux conditions futures du milieu. En d'autres termes, l'organisme n'est pas identique à la monade de Leibniz, harmonie préétablie avec l'univers comme une horloge l'est avec le temps. Il recherche en fait un nouvel équilibre avec l'univers et ses hasards futurs. Son présent est différent de son passé, comme son futur le sera de son présent. L'organisme vivant, comme l'univers, sont des choses que jamais on ne verra deux fois identiques. » Fin de citation. Bassory s'adapte constamment à son milieu pour survivre et accessoirement pour désirer. Elle n'est fidèle à aucun dogme qui pourrait la nuire. Elle se rit de Dieu comme du diable. Elle est donc un être constamment changeant. Tout événement devient une expérience qui modifie son corps et son expérience. Elle ne cesse de mourir et de renaître. Elle est similaire à cet autre vampire dont les tétons tranchés se transforment en vulves. Il est d'ailleurs intéressant que le désir sexuel peut être métaphorisé par ces vulves. Reste la clé pour comprendre la nature de ces vampires. Les dominants détruisent leurs victimes pour que celles-ci n'éprouvent plus d'envie. Or, dans un schéma wienerien, cela sous-entend aussi que les victimes doivent s'adapter pour continuer à désirer. Ainsi, ces seins mutilés s'adaptent à leur nouvel état et créent de nouveaux organes pouvant procurer du plaisir. De même, Bassory survit à une essence de torture, et il y a trouvé du plaisir. L'on pourrait objecter que c'est un topos de fiction excitante, une sorte de schéma sadomasochiste où la femme est livrée à ses bourreaux où il trouve du plaisir. Néanmoins, nous avons vu que le sadomasochisme était lui aussi un acte de contrôle, ce qui n'est pas conforme aux pratiques de la vampire. De plus, l'origine du plaisir est différente selon que l'on soit chez un masochiste classique ou chez Bassory. Rappelons-nous ce que Deleuze écrit à propos de ce plaisir. Citation. On remarque que le masochiste est comme tout le monde qu'il trouve son plaisir là où les autres le trouvent, mais simplement qu'une douleur préalable ou une punition, une humiliation, serve chez lui de condition indispensable à l'obtention du plaisir. Fin de citation. Pour Bassory, la douleur n'est pas une condition du plaisir, elle s'adapte à la douleur pour qu'elle soit plaisir. Si les dominants ont pour but la suppression du désir sexuel chez la victime, nous constatons donc l'impossibilité de la soumission de Bassory. Nous notons donc une différence radicale entre les dominants et l'héroïne de la bande dessinée. Alors que cette dernière est un perpétuel devenir, autre, prête à s'adapter à tous les événements, les oppresseurs détruisent toute anomalie qui pourrait les faire changer. Pour eux, leur identité ne doit en aucun cas être modifiée. Leur présent doit être identique à leur passé et à leur avenir. Ce sont de véritables monolithes. Nous pouvons alors les comparer à ce que Dworkin écrit à propos des hommes. Citation. Le pouvoir des hommes est, premièrement, une assertion métaphysique de soi. Un « je suis » qui existe a priori, comme fondement absolu dénué de toute excuse ou embellissement, sourd à tout démenti ou défi. Il exprime l'autorité intrinsèque. Ce soi ne cesse jamais d'exister, quelle que soit la façon ou les raisons de sa contestation. D'aucuns affirment qu'il survit à la mort physique. Ce soi n'est pas un sentiment subjectif. Il est protégé par des lois et des coutumes, proclamé dans l'art et la littérature, consigné dans l'histoire, renforcé par la répartition de la richesse. Ce soi ne peut être extirpé ou annihilé. Il est. Lorsque le sentiment subjectif du soi vacille, des institutions vouées à son entretien le soutiennent. Le premier axiome idéologique de la suprématie masculine est que les hommes possèdent ce soi et que les femmes, par définition, en sont nécessairement dépourvues. Le soi masculin semble contradictoire. D'une part, il pend là, suspendu dans l'éther, magiquement perpétuel, n'exigeant aucun support. D'autre part, il a le droit de prendre ce qu'il veut pour se nourrir ou s'améliorer, le droit de tout posséder, de satisfaire tout besoin à tout prix. En fait, il n'y a pas de contradiction, mais un argument circulaire. L'essence du soi masculin est de prendre, de sorte que par définition, le soi absolu s'exprime par le droit absolu de prendre tout ce dont il a besoin pour se maintenir. Le soi immuable du mâle se résume à un parasitisme exercé sans le moindre embarras. Fin de citation. Dans la bande dessinée, il semble que c'est ce soi que les dominants veulent garder à tout prix. Il se doit d'être immuable. Ajoutons au raisonnement de Dworkin que si ce soi donne aux dominants sous le patriarcat le droit de prendre ce qu'il veut pour se nourrir, c'est aussi parce qu'il se sent constamment en danger. le soi du dominant ou de la dominante chez Caceres, pour se maintenir tel qu'il est, doit détruire, se nourrir, contrôler ou encore discipliner ce qui le menace. Le dominant ne détruit pas parce qu'il est fort, mais bien au contraire parce qu'il est faible, voire fragile. L'absence de ce soi est bien alors la véritable force de Bassori. Elle n'a pas besoin de contrôler, de discipliner pour survivre, elle se contente de s'adapter. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle ne veut pas devenir reine des vampires à la fin du récit. Elle n'a pas besoin de ce pouvoir. Notons, au passage, un retournement intéressant du darwinisme social. S'il est communément admis dans ce paradigme que ce sont les forts qui prennent le pouvoir parce qu'ils peuvent s'adapter, ici, ce sont bien les faibles qui le prennent parce que, justement, ils ne peuvent s'adapter. Toutefois, dans toute cette furie, il existe un moment où Bassori rencontre son égal. À la fin du récit, son amant, seul personnage dont le vampire tombe réellement amoureuse, explique « Peut-être que je ne suis qu'un Varkolaki, un type de vampire, juste ça. Je ne suis peut-être qu'un petit être insignifiant ou un dangereux dragon suceur de sang. Peut-être suis-je un esprit immatériel qui se dissipe entre les mondes ou l'âme d'un enfant mort non baptisé, conçu hors mariage, débiteur des péchés parentaux. Je pourrais être le produit d'un canevas magique hasardeux. Peut-être suis-je juste une punition de Dieu pour se repentir. La vérité, c'est qu'autrefois je t'ai aimé et que je n'ai pas de nom. » Fin de citation. Ce personnage n'a lui non plus pas d'identité fixe. Il est peut-être tout cela ou finalement rien de tout ça. Il n'a pas de nom, pas de soi. Alors les deux amants se contentent de faire l'amour. La communauté lectrice remarquera alors qu'ici, les corps se mélangent, tout comme les cases de la bande dessinée. Il n'y a plus de bastion identitaire à protéger. Baudrillard aurait même appelé ça une forteresse. De la même manière, c'est la seule page où il y a sexualité sans insulte. Il n'y a pas les normaux et les salopes, juste de personnes ayant du plaisir et procurant du plaisir à l'autre. Il nous paraît amusant, en tout cas moi, de terminer en comparant cette situation à ce que l'autrice Angela Carter écrit à propos des personnages des fictions pornographiques. Citation. La psychologie des personnages est nécessairement limitée par l'impératif formel qui veut que les protagonistes fassent l'amour aussi souvent et aussi ouvertement que possible. Néanmoins, leur motivation n'est pas une sorte de perpétuel désir qui les consumerait en permanence. La libre expression du désir est aussi totalement étrangère à la pornographie qu'elle l'est au mariage. Dans l'univers pornographique, les hommes comme les femmes font l'amour parce que telle est leur raison d'être, un mode de vie comme un autre. Fin de citation. Cette citation pose au moins deux problèmes. Chez Caceres, il semble que la motivation principale de Bassori soit justement un perpétuel désir, ce qui éloignerait le récit d'une fiction pornographique classique. De plus, la dernière phrase de Carter révèle aussi un a priori, il me semble, de l'autrice. Les dominants font-ils simplement l'amour? Non. Ils dominent, ils contrôlent, ils disciplinent. Ils ne font pas l'amour pour faire l'amour. Ce n'est pas leur raison d'être. Leur raison d'être est de conserver ce que Dworkin appelle leur soi. Bassori, si l'on admet l'idée de Carter, n'est donc globalement pas une œuvre pornographique. Les seules personnes faisant l'amour juste pour faire l'amour sont Bassori et son amant. Paradoxe de cette situation, le seul moment où deux êtres s'aiment l'un l'autre sans se violer ou s'insulter, des topos récurrents de la fiction excitante, est donc le seul moment éminemment pornographique de cette bande dessinée. De plus, ils ne veulent en aucun cas soumettre l'autre à aucune pratique, quelle qu'elle soit. Or, en croire Barthes, il ne se trouverait donc pas sexy. Caceres, d'après Carter et Barthes, aurait donc inventé, en imaginant ce moment de tendresse entre deux personnes, une nouvelle catégorie artistique, une pornographie antisexy. Nous laisserons la communauté lectrice à ce constat, il nous amuse beaucoup trop pour que nous prenions parti. Bassori, malgré ce que nous venons d'écrire, est une bande dessinée pornographique. Elle regroupe tous les clichés que la communauté lectrice peut être en droit d'attendre actuellement de ce type d'œuvre. Néanmoins, en présentant tous ces clichés de manière grotesque, il est par exemple assez rare à notre connaissance de voir des têtes arrachées à coups de pénis, l'auteur nous montre les fondements idéologiques de ce genre de clichés. De plus, en expliquant ces fondements, en les mettant à plat, il nous semble qu'il arrive à tomber d'accord avec des écrivains féministes comme Carl Petman ou même la militante anti-pornographie Andrea Dworkin. Cette dernière aurait-elle réfléchi à deux fois avant de vouloir censurer cette bande dessinée? N'exagérons rien. Toutefois, le doute reste permis, notamment lorsque nous lisons ce genre de passage de sa part. Citation Dworkin. Pour moi, il nous faut insister sur les auteurs des crimes commis contre les femmes au lieu de nous poser sans cesse des questions. Pourquoi est-ce arrivé à elle? Qu'est-ce qu'elle a d'anormal? Pourquoi l'a-t-il choisi elle? Mais pourquoi devrait-il frapper ou blesser qui que ce soit? Qu'est-ce qu'il a d'anormal? La question, c'est lui. Le problème, c'est lui. C'est sa violence à lui que nous nous retrouvons à fuir enfin nous, pas moi, bref, dont nous nous cachons et dont nous nous souffrons. Le mouvement des femmes doit être prêt à nommer l'agressé, à nommer l'oppresseur. Fin de citation. Or, montrer ce que l'agresseur a d'anormal, n'est-ce pas ce que Caceres fait pendant toute sa bande dessinée? Ses idées sont-elles pertinentes? Il nous semble que oui, notamment parce qu'elle recoupe de nombreuses théories développées par Claude Stevelight dans son livre « Fantasmalgorie », histoire que les gens comprennent le jeu de mots, consacré à la sexualité des Allemands pendant l'Allemagne nazie. Une chose est certaine, si Dworkin était d'accord avec la citation de Barthes, elle n'aurait pas apprécié qu'un homme trouve sexy une femme. Merci à vous.
Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca.